C'est une joie de revenir ici ce matin, de vous apporter la parole de Dieu. Merci pour ces paroles d'introduction, Phil Johnson. Ce que je vais faire ce matin, c'est de répondre à la question, sommes-nous des prédicateurs ou des guérisseurs? Ça peut paraître un peu bizarre pour l'oreille américaine, mais c'est une très bonne question pour ma situation personnelle chez moi. C'est une matière qui est souvent mise en évidence, c'est quelque chose que j'approche souvent dans mon blog. C'est une question pertinente, car il y a eu clairement un changement dans la manière avec laquelle les évangéliques, et je mets ça entre guillemets, et comment ça se connecte avec le ministère pastoral. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on commence en lisant 2 Timothée, chapitre 3, un passage qui démontre clairement devant nous quelque chose de ce qu'un vrai pasteur de la parole de Dieu doit s'occuper avec. 2 Timothée, chapitre 3. Verset 16. Et j'aimerais vous rappeler une chose que j'ai dit il y a 2 jours. Je vais vous donner une vue d'ensemble et vous expliquer un petit peu ce qui se passe en Afrique. Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui vont être inclus dans cette vue d'ensemble et qui font partie de ce groupe, et qui peut-être sont une minorité. Mais je pense que vous allez comprendre ce que j'essaie de faire. C'est quelque chose qu'on doit comprendre pour pouvoir accomplir le meilleur bien. Alors, de Timothée 3, verset 16, l'apôtre Paul écrit « Toute écriture est inspiré de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu, cette phrase connue, que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. » On va finir la lecture ici. C'est la dernière épître écrite de Paul que nous avons à la veille de son départ. Son dernier chapitre parle de sa conscience. Il est conscient qu'il va devoir partir et va devoir quitter tout son labeur. C'est un parallèle qu'on voit avec Jésus-Christ dans la chambre haute où il finissait son ministère avec une prière avant de mourir. Le même parle avec Christ, qu'il était conscient que la fin venait, mais il savait que son travail, que son œuvre allait continuer après eux. Et ces dernières paroles qui demandent, qui plaident une continuation de leur ministère de manière qu'ils expliquent ce que ça veut dire et ce qui reste important. Et dans ce passage de Timothée, on voit que Paul veut clarifier rapidement dans l'esprit de Timothée l'instrument primaire que Timothée doit utiliser. Cette parole inspirée divinement qui est suffisante pour toute l'œuvre que l'homme de Dieu doit accomplir. Pour qu'il puisse être complètement équipé et prêt à toute bonne œuvre. Deuxièmement, il donne une charge à Timothée, une charge importante, invoquant le nom de Dieu, et Dieu le Fils, en mentionnant le jugement à venir, lui disant non seulement tu dois prêcher, mais tu dois prêcher la parole. Tu dois expliquer cette parole dont je parle. Et troisièmement, non seulement lorsque tu as une audience qui est prête à t'écouter, mais même lorsque les hommes et les femmes se bouchent les oreilles, tu dois prêcher. Sois patient et prêche. Fais tout ce que tu peux pour t'assurer que cela se passe. J'aimerais vous lire deux histoires qu'on a trouvées dans le journal de chez nous. Ça va faire référence à trois prédicateurs évangéliques, entre guillemets. Chacun, cette année, le premier se passa le 8 juillet, c'est ce qu'il dit. Un pasteur de Lusaka qui en 2012 seul mit en scène plus de 10 femmes parmi ceux qui le suivaient, finalement divorça sa femme. L'évêque Emmanuel Chica de l'église de la restauration et de la délivrance fut divorcé par sa femme après son, entre guillemets, son évangélisation des jupes, lorsque cela fut publié dans les médias en septembre 2012. Et sa femme, Alice Kassonda, décida de finir le mariage lorsqu'elle s'aperçut que combien d'enfants avait été issu de ce pasteur, de son mari. Dans une autre partie du pays, une autre histoire, je vais résumer l'article juste pour vous dire un petit peu ce qui se passe. La police de Chipata arrêta deux pasteurs qui avaient violé ou attaqué deux filles lorsqu'ils priaient pour eux. Le premier était mentionné comme un prophète, le deuxième comme un pasteur. La femme raconte que le pasteur lui avait dit qu'il fallait aller à sa maison et puis là d'écrire nos prières et puis suite à cela aller dans les collines pour prier. Le jour suivant, le 25 avril, ils nous ont fait s'allonger avec nos corps faisant face au ciel. Ils nous ont demandé d'enlever nos vêtements. Et je m'arrête là parce que les choses s'empirent et j'ai pas envie de gâcher ce matin. Mais tout ça pour dire que ces femmes furent abusées sexuellement sur ces montagnes. Pourquoi est-ce que des choses comme ça se passent tellement fréquemment parmi les églises évangéliques? Aujourd'hui, partout en Afrique. Ces deux articles du mois de juillet sont de cette année. Seulement deux parmi d'autres. Ce que j'aimerais vous montrer ce matin, c'est que la cause, c'est le changement qui a eu lieu dans la pensée populaire de qu'est-ce que c'est qu'un pasteur dans une grande partie de l'Afrique. Ce que nous lisons dans la Bible, ce que nous avons lu il y a quelques minutes, n'est pas ce qui est dans la pensée populaire chez nous. Un pasteur est quelqu'un qui finalement étudie la parole, qui la prêche dans son contexte, qui l'applique dans le contexte du peuple de Dieu. Mais ce que vous devez apprécier, c'est que dans le mouvement charismatique, on a même dépassé le charismatique américain, souvent dans la dépiction de ce qu'ils appellent l'homme de Dieu. Il y a plus de 30 ans, ce titre était très rare parmi les chrétiens. Ce titre d'homme de Dieu. J'entendais rarement un pasteur être appelé de même, mais aujourd'hui, c'est la phrase populaire. Je ne sais pas combien de fois par jour on m'appelle homme de Dieu. Les pasteurs à cette époque étaient vus comme des prédicateurs et des enseignants. Leur prominence était basée sur leur niveau de don dans l'explication de la parole. Et ça a changé. Et on ne peut faire que reconnaître, la manière, la façon dont ça a changé. La raison, c'est que le pentecôtisme initial qui a visité les rivages de l'Afrique n'était pas dirigé directement à rejeter la parole de Dieu, l'enlever du pupitre. J'en ai parlé il y a deux jours. Mais ce que le but, c'était d'ajouter à la perception originale de la parole, c'était d'ajouter les miracles, les dons miraculeux, toutes ces choses. Mais il y avait quand même un effort d'exposer la parole de Dieu, d'exposer la Bible. Et puis suite à cela, il y avait un temps supplémentaire pour ceux avec des problèmes, pour s'avancer et pour que le prédicateur puisse prier pour eux. Mais comme l'histoire du chameau arabe, la fascination humaine pour le mystérieux, à causer une chose, à mener à l'autre, jusqu'à ce que la prédication dans les cercles populaires charismatiques au travers de l'Afrique a maintenant perdu son contenu et n'est rien de plus que des platitudes de motivation suivies par beaucoup de cris et d'autres choses. Et vous regardez vos propres télévisions et voyez vos télévangélistes. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est changer la couleur de la peau. Et bien sûr, peut-être les beaux bâtiments que vous avez ici, et c'est la même chose qu'on voit à la maison. Mais c'est ce que vous avez. Des belles phrases. Peut-être même une citation de la Bible, ici ou là. Souvent hors contexte, ne disant pas vraiment l'intention qui avait été donnée par l'auteur. Et puis, le temps fort de la prédication, c'est le prédicateur qui a l'air d'être possédé ou quelque chose, qui devient fou. Sinon, avoir l'air en colère. Mais souvent, chez nous, ce qui est important, c'est ce qui suit. C'est lorsque l'homme de Dieu, entre guillemets, qui est bien sûr pas dans le contexte dont Timothée est appelé homme de Dieu, il prend le rôle qui n'a l'équivalence qu'un de guérisseur de village. Laissez-moi vous expliquer. Timothée était enseigné ici que son travail, c'était de prêcher la parole. Ce qu'on a vu plutôt dans les versets auparavant, comme inspiré de Dieu, utile pour enseigner, convaincre, corriger et instruire dans la justice. Ça, c'était ce que Timothée devait accentuer. Dans la situation chez nous, c'est que souvent, le travail commence après les paroles de motivation. Ça commence avec l'imposition des mains, alors que les multitudes viennent, s'avancent. Ils n'écoutent presque même pas au speech. Tout ce qu'ils veulent, ils attendent de pouvoir s'approcher de cette personne qui est remplie, soi-disant puissante, pour faire son œuvre. Et souvent, cela se passe pendant des cultes qui sont longs, qui se prolongent, des réunions de prière qui durent pendant la nuit, des temps de prière qui durent toute la journée sur les collines. Ce que je dis sur les collines, j'espère que vos pensées reviennent sur le fait que c'est un phénomène régulier. On voit ça dans l'Ancien Testament. On va sur les collines et on voit l'homme de Dieu qui est entre guillemets occupé, soi-disant priant. La troisième chose, c'est que il n'y a aucun effort donné de l'aide biblique, de la relation d'aide biblique lorsque les gens viennent avec leurs problèmes. Si quelqu'un perd son travail, encore une fois, à de nombreuses fois, le pasteur n'adresse pas la question si la personne a une éthique de travail qui est appropriée. Les gens viennent, ils disent qu'ils ont des problèmes de mariage et il n'y a pas de conseil. Ils ne posent pas la question, « Homme, est-ce que vous aimez votre épouse comme Christ aime l'Église, est-ce que vous travaillez dans cette direction? Femme, êtes-vous soumise? Respectez-vous vos maris? Est-ce que vous suivez son leadership comme l'Église se soumet à Christ? » Mais il n'y a rien de tout ça. Lorsqu'il y a un problème, avancez-vous devant et on prie pour vous. En fait, souvent lorsque je conduis de longue distance, j'essaie d'écouter à la radio et de temps en temps, on entend un de ces pasteurs qui a un programme de radio et les gens lui lisent des lettres, qui répond. On peut deviner qu'est-ce que la réponse va être presque tout le temps. C'est quelque chose comme ça. S'il y a un problème de mariage, blablabla. Homme de Dieu, que dis-tu? Madame, venez à notre réunion de prière pendant la nuit, ce vendredi, et on va prier pour vous. Vous avez besoin d'être délivré. Prochaine personne. J'ai des problèmes pour enfanter. Homme de Dieu, quelle est ta réponse? Venez à notre réunion de prière. Vous avez besoin de percer cette chose dans votre mariage. Venez à notre réunion. Et c'est leur réponse pour toutes les questions. Que la délivrance va venir en ces réunions. Mais il n'y a pas de questions morales qui sont posées. Plutôt, c'est la même chose que les sorciers, les guérisseurs font dans le village. Deux choses montrent que c'est similaire. Premièrement, c'est une réclamation qui est un soi-disant discernement spirituel après un temps prolongé de prière, dans lequel l'homme de Dieu, entre guillemets, semble avoir une relation secrète, cachée avec Dieu, et que Dieu communique avec lui ce que personne d'autre ne peut savoir. Et puis, comme si Dieu lui parlait, il vous dit ce qu'est le problème. C'est exactement ce que les guérisseurs, ce que les sorciers font. Vous lui dites quel est votre problème. Il va dans une sorte de transe, il bouge quelques cailloux. Et puis, annonce que votre problème est que votre voisin a communiqué avec votre oncle décédé, que votre oncle décédé, c'est lui qui est en obstacle à l'enfantement que vous essayez d'avoir. C'est la même chose. Mais deuxièmement, surtout en rapport de la guérison, c'est que les guérisseurs des villages, les prédicateurs charismatiques voient un docteur conventionnel comme une compétition pour aller à un hôpital après avoir été prié pour. C'est une trahison de confiance et un manque de foi. Vous êtes en train de vous opposer à ce que l'homme de Dieu a fait. C'est exactement ce que les guérisseurs font. J'ai fait ça pour vous. N'allez pas chercher les médicaments du docteur. Sinon, ce que j'ai fait pour vous va perdre son potentiel. Et le résultat de tout ça, c'est que beaucoup de gens meurent de maladies qui peuvent être soignées par la médecine conventionnelle. Et souvent, ils vont dans les hôpitaux lorsque c'est trop tard. J'ai des docteurs dans mon église. Et de temps en temps, c'est leur frustration qu'ils expriment. Une fois, ils arrivèrent trop tard, et qu'ils enlevèrent leurs habits, ils trouvèrent des marques sur tout le corps. Et ils savaient pourquoi ces gens étaient en retard, c'est parce qu'ils étaient allés chez le guérisseur et leur avait dit qu'il allait les soigner. Maintenant, avec les gens dans la ville, ces marques ne sont pas sur leur corps. Mais lorsqu'on leur demande, ça devient évident, surtout quand on demande aux gens de la famille la raison pour laquelle sa personne prie autant de temps, c'est parce que cette personne était allée sur la montagne avec un évêque, un prophète, un apôtre, etc. C'est triste, mais souvent c'est trop tard. Et les gens meurent. Maintenant, on doit être prêt à répondre à la question que j'ai posée au début du message. Pourquoi est-ce que ça se passe tellement fréquemment parmi des gens qui s'appellent évangéliques? Qu'une femme, qu'une épouse devrait savoir que son mari, devrait apprendre que son mari couche avec tellement de femmes dans l'église et doit quand même aller à l'église et l'écouter prêcher. Cet homme qui, soi-disant, est rempli de puissance. Comment des individus puissent être autant ignorants pour suivre ces pasteurs au milieu d'un buisson, au sommet d'une montagne, seul avec eux, pour la prière? Pourquoi ils ne peuvent pas prier dans leur maison? J'aimerais répéter, c'est le grand changement dans la manière avec laquelle le public voit un pasteur charismatique africain. Et ça, la conséquence, c'est une loyauté aveugle parmi ceux qui suivent, parmi les disciples. Et cette phrase « homme de Dieu » est l'équivalent de la phrase « le sorcier guérisseur du village ». Il y a quelque chose de mystérieux qui entoure cet individu. Comme le guérisseur du village, cette personne a des clés qui peuvent ouvrir un monde mystérieux qui l'habilite pour connaître des choses dans le monde des esprits que les autres personnes mortels faibles ne peuvent pas connaître. Ainsi, de s'opposer à ces personnes, de les exposer, c'est de se maudire. D'apporter sur soi une malédiction. Et on ne peut pas rater ça dans le contexte des villages. Lorsqu'une personne vient pour visiter un sorcier guérisseur et on lui demande « Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi. » On ne peut pas avoir quoi que ce soit de concret. Parce que si je dis quoi que ce soit, et que ça revient jusqu'à ce guérisseur, il peut te maudire et maudire ta vie. Et donc les gens ne disent rien, comme si je ne connaissais rien, comme si je ne savais rien. Si vous pouvez imaginer dans son contexte tout ce que j'ai dit il y a 2 jours, lorsque ce livre, la Bible, est fermée, on a affaire avec de l'ignorance. Et en conséquence, lorsque cet soi-disant homme de Dieu commence à dire et à faire des choses et qui sont évidemment sur la ligne de ce qui est immoral, mais il n'y a aucune direction, aucun support pour pouvoir siffler dans un signal d'alarme. C'est choquant le nombre de femmes qui finalement arrivent à la fin de la route et lorsqu'elles partagent leur histoire, on leur dit « Madame, lorsque cet homme commençait à faire ces choses, lorsque ça commençait, ne réalisiez-vous pas que tout était faux, que c'était immoral et non biblique ?» Et la réponse est souvent oh, « vous savez, en tant qu'homme de Dieu, je pensais qu'il savait ce que je ne savais pas et ainsi, je lui ai fait confiance jusqu'à ce que ça devienne trop pour moi. » C'est pour cela qu'on voit tous ces articles du journal. Une femme de pasteur qui finalement devient fatiguée de toutes ces choses lorsque plus de 10 femmes dans l'église ont des enfants de son mari. Et on parle de Lusaka qui est la capitale de mon pays, la Zambie. C'est cette dame fut confuse pendant tellement de temps lorsque finalement elle a dit « assez est assez ». Mes frères, j'aimerais vous dire que ces choses ne concernent que des sectes. J'aimerais pouvoir dire que c'est seulement des traditions de la culture africaine et des vieilles religions. Mais je parle ici de ce qui devient rapidement la figure de la chrétienté évangélique au monde extérieur. C'est très très loin de ce qu'on lisait en 2 Timothée 3, verset 16 et chapitre 4, verset 2. Souvent, ces individus qui sont flamboyants dans leurs habits, qui sont des idoles de musique, avec un faux accent américain, bien sûr. L'accent africain est tellement fort qu'on peut encore le voir dans cet accent importé. Mais j'ai peur, je dis, leur message ne vaut pas la peine d'être écouté 2 fois. Il n'y a aucune exposition des Écritures et il y a une absence observable de tout ce qui parle des richesses de Christ. La repentance est complètement absente. Il n'y a aucun effort à travailler pour que les gens de Dieu puissent être conformes à l'image de Christ. tout est centré sur comment pouvons-nous avoir, recevoir tellement qu'on peut se gâter. Lorsque je préparais cette étude, j'ai regardé quelques affirmations venant de ces mouvements. J'en ai choisi un. Un pasteur dit : « Je déclare la prospérité pour votre vie au nom de Jésus. » Pourquoi est-ce que son affirmation doit être plus importante que la mienne, ou plus puissante que la mienne? Pourquoi est-ce que lui, de déclarer la prospérité sur ma vie, est plus importante que moi-même, le déclarant sur ma vie? Parce que soi-disant, c'est un homme de Dieu avec une puissance qui est soi-disant une relation plus profonde avec Dieu. Et alors, lorsqu'il dit ses paroles, il y a quelque chose de magique qui se passe. Et c'est pour ça qu'on voit ces répétitions qui sont blasphématoires même et sans révérence. Au nom du nom de Jésus. Et ils disent: au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. La même manière dont les guérisseurs parlent. C'est la même chose. Ils répètent une soi-disant phrase avec une certaine puissance cachée, mais en réalité, il n'y a rien qui se passe. Et c'est de ce dont on parle. Il y a quelques années, à cause des gens qui connaissaient ma position par rapport à ces choses, j'étais invité à une radio, la deuxième radio la plus populaire dans le pays. Le sujet était les guérisons miraculeuses de nos jours. On était quatre. Un prêtre catholique, deux pasteurs charismatiques connus et moi-même. Un des pasteurs charismatiques, un guérisseur connu, ne pouvait pas venir. Il a dit qu'il était malade et les gens rient. Bon, il avait menti. Parce qu'après que l'émission soit terminée, je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré dans un supermarché faisant ses commissions avec sa femme. Mais bon, ça c'est à part. Lorsque l'interview continue, le prêtre catholique essayait d'être des deux côtés de l'argument. Il disait que oui, celui-là, ce qu'il dit, ça a sens, mais celui-là aussi, il y a des choses qu'on peut tirer de ça. Il y avait en gros un pasteur charismatique et moi qui étaient en conflit. Et puisque c'était une mission où les gens pouvaient appeler, j'ai mis les gens en défi, j'ai lu le passage lorsque Jean-Baptiste, ses disciples, lui demandèrent s'il était le Messie ou non. Et Jésus lui dit « Allez dire aux disciples de Jean ce que vous avez vu. Ceux qui ne pouvaient pas marcher marchent, les aveugles voient, et les sourds entendent. » Et j'ai dit sur cette émission, s'il y a qui que ce soit par qu'ils entendent, qu'ils étaient parmi ces catégories d'aveugles ou de boiteux ou de sourds et que vous avez été guéris, appelez l'émission. Et en une heure de temps, je suis devenu un Élie du Nouveau Testament parce que je continuais à mettre les gens en défi. Et il n'y a personne qui pouvait appeler. Maintenant, rappelez-vous que c'est dans un pays où, littéralement, chaque week-end, les églises ont ces guérisons. Chaque week-end. Chaque mois, il y a des posters partout dans la ville d'un prophète et de notre prophète et de cet évêque et tout concernant ces croisades de guérison jusqu'au point où on a juste envie de les déchirer parce que il y en a tellement et tous réclament que ces guérisons ont vraiment lieu. Après une heure de discussion, et alors que je répétais cette invitation, il y a eu seulement deux appels. Premièrement, c'était un gentleman qui dit que 8 ans auparavant, il prit la fille d'un voisin qui avait 2 jambes qui n'étaient pas égales à ce guérisseur de la foi. Et les jambes devinrent de la même longueur suite à cela. Et je lui ai dit, il y a 8 ans, il a dit oui. Et je pense pas qu'il comprenait ce que j'essaie de communiquer. Alors bien sûr, j'ai demandé qu'est-ce que c'était la jambe plus longue, plus courte, c'était les détails. Mais s'il y avait seulement une seule réponse en 8 ans... Ça fait longtemps, il n'y a rien qui se passe. La deuxième personne qui a appelé, c'était une femme, clairement qui était agitée, encourageait l'homme de Dieu à ne pas m'écouter parce que j'étais un théologien mort. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec moi? J'ai demandé des témoignages. C'était les seuls 2 appels qui prétendaient avoir quelque chose pour soutenir ces leaders charismatiques dans cette nation de plus de 1 million de personnes, avec des guérisons, des croisades de guérison qui se passent chaque semaine. Celui qui faisait l'interview, finalement, est arrivé à une conclusion. Il lui a dit au pasteur charismatique, on attend plus un moment, il n'y a personne qui appelle. Et ce fut sa réponse. Je pense qu'ils sont timides. C'est la réponse du pasteur charismatique. Le pauvre homme a eu une crise cardiaque. Suite à cela, il fut dans le coma pendant au moins 1 semaine jusqu'à ce qu'il mourût. Pourquoi ses amis guérisseurs de la foi ne vinrent pas pour le guérir, pour le lever du lit? Parce qu'ils savaient que c'était une fraude, c'était un péché. C'était un mensonge. Notre dernier point, puis on va finir en Zambie. Nous avons une organisation qui cherche le bien-être des handicapés, de ceux qui sont qui sont malades de cette manière. Et lorsque ce phénomène devient trop, il fait une affirmation publique disant « Ceux d'entre vous qui sont aveugles, boiteux ou sourds, n'allez plus à ces rencontres qui réclament des guérisons. Parce que selon nos dossiers, il n'y a pas eu un seul individu qui fut guéri dans ces rencontres. Si c'était une organisation qui vraiment devait avoir une information qu'on pouvait croire, c'était bien eux. Mais tout ce qu'on voit, c'est des charlatans, des gens qui ne sont pas convertis, qui vont partout, qui attirent les multitudes dans le nom de faire ce qui est miraculé, lorsque dans leurs âmes, ils savent très bien qu'il n'y a rien de tout cela qui se passe. Ils réclament avoir des dons qu'ils n'ont pas. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est ? Mais une fraude, du péché, la méchanceté, c'est ce que c'est. Non seulement ils ont abandonné l'œuvre qu'on leur a donnée, mais ils réclament faire une œuvre, ce qu'ils ne font pas. Simplement d'attirer des foules et de se rendre riches. J'aimerais finir avec celui. Premièrement, j'aimerais vous demander pardon pour gâcher votre matin. C'est pas le genre de message que vous l'écoutez avec un donut et une tasse de café dans l'autre main. J'aimerais pouvoir être plus positif. J'aimerais pouvoir dire que ces choses, qu'il y a des choses, une fois de temps en temps, il y a des vraies guérisons qui arrivent là ou là. Ou peut-être que c'est simplement la partie de mouvements extrêmes qu'on voit rarement. Mais j'aimerais répéter que ce phénomène qui grandit est en train de devenir la face de la chrétienté évangélique au monde extérieur. Le pasteur évangélique moderne qui a du succès de nos jours, entre guillemets toujours, est simplement sorcier guérisseur qui apparemment utilise quelque chose, une puissance qui a l'air plus propre et plus forte, qui aide les gens à être guéris ou à percer au travers de leurs problèmes. C'est tout ce qu'on voit. À la lumière de ce qu'on a lu en 2 Timothée, ce qui me concerne, c'est le silence. Le silence le silence des gens de faire face à ces choses. J'ai écrit un blog sur cela qui s'appelle « Notre silence évangélique criminel ». Ça m'embête qu'on est si silencieux. Et lorsqu'on regarde la liste des membres de la communauté évangélique de Zambie, 90% de ses membres sont ses ministères. J'ai vu la liste moi-même. Je sais de ce que je parle. Quel est mon appel aujourd'hui? Si vous venez en Afrique ou en Zambie, accentuez dans vos enseignements 2 Timothée 3, 16, chapitre 4, verset 2. appeler les pasteurs à revenir à ce que leur vraie œuvre devrait être. Ce qui me sépare dans mon assemblée, ce n'est pas que j'ai une entrée secrète dans la présence de Dieu par un passage secret, en passant les démons, les ancêtres spirituels, et que je peux amener une bénédiction particulière. Non. Dans notre Église, c'est le sacerdoce de tous les croyants. Et le fait que je suis pasteur, c'est parce que j'ai certains dons et un appel de Dieu qui m'a appelé à prêcher ses paroles. Et deuxièmement, je vous appelle à prier, continuer à prier pour ceux qui font le ministère de 2 Timothée 3 et 4. Prêt pour ceux qui prêchent. Prêt qu'ils puissent être fidèles et qu'ils puissent se multiplier en nombre pour que cette vague puisse être bloqué par la parole de Dieu qui amène la lumière dans les ténèbres. Priez pour nous. Si je peux oser m'impliquer parmi ces gens, priez pour moi, priez pour nous. Troisièmement, continuez à fournir de la vérité, surtout au travers des livres qui clarifient cette question et qui envoient un avertissement que lorsque l'on ouvre la porte, même un petit peu, à ce qu'on appelle des révélations extraordinaires en Afrique, sans le bénéfice qui était présent dans les temps bibliques, qui était la présence et la reconnaissance des apôtres eux-mêmes. C'est là où on arrive. C'est une question de temps. J'aimerais répéter. Ce n'est pas juste un petit groupe qui sont de leur côté avec des fous. C'est un spectrum beaucoup plus grand, un spectre beaucoup plus grand. Il y a des couleurs différentes, il y a des concentrations différentes, mais qui se suivent. Et ceux qui sont intelligents s'arrêtent sur ce spectre et restent ouverts, mais les gens communs qui restent ouverts mettre en pratique l'implication complète de ces choses. Et ce qui se passe, c'est que les gens vont d'un pas à l'autre et ça devient le problème du chameau arabe où la Bible est utilisée pour quelques petits versets à gauche et à droite. Au lieu d'approcher la Bible dans son contexte, avec des passages riches et les paragraphes, et de la manière dont Dieu voulait qu'on la comprenne. Si seulement les gens pouvaient comprendre à quel point ce livre est riche, ce livre qui est suffisant, qui est utile pour enseigner et convaincre, corriger, instruire dans la justice. Finalement, je vous demande, soutenez la formation des prédicateurs et des pasteurs et de ces églises qui représentent la chrétienté du Nouveau Testament. Soutenez-les. Peu importe comment vous pouvez le faire, l'Afrique a besoin de votre partenariat. Prions. Père Céleste, ces choses sont tristes et nous montrent que l'ennemi le plus grand de Dieu est réel. Et lorsque la lumière de ta parole ne brille pas comme la lumière du soleil, les ténèbres remplissent la place. Pour l'amour de ton Église, visite notre continent. Par amour pour ton Église, ô Dieu, sauve cette situation, sauve-nous de cette situation. Pour l'amour de ton Église, ô Dieu, que le son de la trompette puisse faire écho de l'est à l'ouest, le son du clairon, pour que ceux qui sont piégés par le malin et par ces loups habillés en peau de mouton puissent avoir du discernement. Visite-nous, Père Céleste. Au nom de Jésus, amen.
We trust you're encouraged by what you've just heard. You've been listening to Grace to You. For more information about Grace to You, visit www.gty.org. That's gty.org. Or call 1-800-55-GRACE. Thanks again for your interest in Grace to You, where each day we're unleashing God's truth, one verse at a time.